toutes et à tous sur les ondes de Radio G 101.5 FM. Bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, portée par l'association Le Plantis à Écuyer, coworking et centre de ressources et de formation rurale, collaboratif et gourmand. Ce rendez-vous incontournable sur la nature et les plantes sauvages est rédigé et animé par Claudie, ingénieure paysagiste conseil, Christelle, réflexologue plantaire et relaxologue, et Élise, initiatrice de soins et rituels pour les femmes, toutes trois professionnelles du plantis. Deux fois par mois, nous partons à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Cette émission est aujourd'hui consacrée à la magnifique et délicieuse chicorée. Ma grand-mère en raffolait avec du lait au petit déjeuner et aussi au goûter lorsque le froid arrivait. Je me souviens de sa mine réjouie et de son air gourmand. Mon grand-père la mettait sous cloche pour la faire blanchir. Il en confectionnait de délicieuses salades à la sauce épicée et aillée. Ma mère, quant à elle, l'arrache consciencieusement à quatre pattes dans sa pelouse car ses tiges rigides lui fouettent les mollets et résistent à la tondeuse. Quant à moi, au gré de mes déplacements en bicyclette, je m'arrête au bord de la route pour la contempler émerveillée, elle et sa floraison bleue vivifiante. Le soleil de ces floraisons me redonne confiance en la vie, car pourquoi la nature aurait-elle créé toutes ces fleurs si ce n'est pour nous éveiller les sens et nous mettre en joie? Trois générations et quatre histoires différentes avec cette plante. Autant dire que notre relation avec elle fluctue en fonction de l'histoire que l'on tisse avec elle. Et vous, demain, quels souvenirs partagerez-vous avec cette belle vivace? Pour vous aider à choisir, partons à la rencontre de la chicorée amère. En cet été, qui joue les prolongations, la chicorée éblouit encore par sa belle floraison bleue sur les bords des chemins, les terre-pleins routiers, mais aussi les terrains vagues, les prairies rocailleuses et les friches. En attendant l'inévitable fauche des bas-côtés, un vrai génocide en vérité pour les butineurs, profitez de cette vision enchanteresse. La chicorée sauvage, ou Cichorium intibus, fait partie de la grande famille des astéracées, dont font aussi partie la pâquerette et le pissenlit que nous avons évoqués précédemment. En français vernaculaire, on appelle la chicorée sauvage chicorée amère, car toutes les parties de la plante sont amères. Cette plante vivace herbacée s'installe dans les sols secs et calcaires. La première année, elle forme une belle rosette de feuilles découpées qui ressemble un peu à celle du pissenlit. Comme beaucoup d'espèces pionnières et résistantes à la sécheresse, elle développe une racine pivotante longue et charnue qui lui permet de stocker les réserves pour passer l'hiver et préparer la future floraison. À partir de la seconde année, elle émet des tiges rameuses et rigides, très résistantes au vent, pouvant dépasser un mètre. Sur la tige, les feuilles deviennent entières. Plus les feuilles poussent en hauteur, plus leur taille diminue, jusqu'à devenir au sommet de simples petites bractées. De juillet et jusqu'au gelée, de jolis capitules bleus étoilés de languettes, caractéristiques de la famille des astéracées, apparaissent directement sur la tige, à tous les étages de la plante. Elles s'ouvrent au lever du jour et se ferment à la tombée de la nuit, ou lorsque le temps est couvert. Pour les jardiniers observateurs de la nature, elle est une horloge gratuite, avec la météo en plus. Les inflorescences forment à maturité des fruits, pourvus d'une aigrette, qui seront disséminées au gré de la météo. Autrefois, la chicorée nourrissait les lapins, d'où son surnom de chicorée à lapin ou de chicorée à fourrage. Elle était en effet réputée pour les élevages de chevaux, où elle remplace avantageusement l'avoine. Elle est aussi très prisée en Nouvelle-Zélande, pays d'élevage, qui lui redonne ses lettres de noblesse. Riche en minéraux et vitamines, elle mériterait d'être remise au goût du jour, semée avec le trèfle blanc dans les pâturages. Pas besoin de l'arroser ni de l'enciner. Elle est plébiscitée, d'ailleurs, par les éleveurs bio. Loin d'être une mauvaise herbe, la chicorée amère est une excellente plante fourragère, à l'instar de la variété ancienne justement nommée grosse chicorée fourragère. Allez, en parlant de mauvaises herbes, écoutons la chanson culte de Georges Brassens, reprise par les Croquants.
Quand le jour de gloire est arrivé, comme tous les autres étaient crevés, moi seul connu le déshonneur de ne pas être mort au champ d'honneur. La mauvaise herbe, brave champ, brave champ. C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort fauche à les autres, brave champ, brave champ. Il me fit grâce à moi, c'est immoral, mais c'est comme ça. Laï la 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 laï la laï, laï la 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 laï la laï. Et je me demande pourquoi bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. La fille à tout le monde à bon cœur, elle me donne au petit bonheur les petits bouts de sa peau bien cachés que les autres n'ont pas touché. Je suis de la mauvaise herbe, brave gens, brave gens. C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Elle se vante aux autres, brave gens, brave gens. Elle se donne à moi, c'est immoral, mais c'est comme ça. La 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 la. Je me demande pourquoi bon Dieu ça vous dérange quand même un peu. Et je me demande pourquoi bon Dieu ça vous dérange quand même un peu. Les hommes sont faits, nous dit-on, pour vivre en bande comme des moutons. Moi je vis seul et c'est pas demain que je suivrai leur droit chemin. La mauvaise herbe, brave gens, brave gens. C'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. Je suis de la mauvaise herbe, brave gens, brave gens. Je pousse en liberté dans les jardins mal fréquentés. Laï la 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 la. Et je me demande pourquoi bon Dieu ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi bon Dieu ça vous dérange que je vive un peu. Je me demande pourquoi bon Dieu ça vous dérange que j'y vais un peu. Et je me demande pourquoi bon Dieu ça vous dérange que j'y vais un peu. Et je me demande pourquoi bon Dieu ça vous dérange que j'y vais un peu. Et je me demande pourquoi bon Dieu ça vous dérange que j'y vais un peu.
Consommée en Égypte ancienne, la chicorée est aussi utilisée pour son pouvoir contre les maléfices. En effet, à toutes les époques, on utilise des plantes pour se nourrir et pour s'assurer la protection contre le mauvais sort. Décrite amie du foie par Galien, elle est réputée dépurative et tonique, propriété encore reconnue de nos jours. Au Moyen Âge, elle a la réputation de fixer l'amour. C'est une plante au pouvoir bienveillant. En magie, cueillir un pied de chicorée sauvage la nuit, après la pleine lune des jours d'été, fait partie de rituels d'exorcisme contre les maléfices. S'il est réalisé en silence, dans la nuit de la Saint-Jean, avec un couteau en or, le pouvoir de la chicorée devient exceptionnel, permettant d'ouvrir les serrures ou même de devenir invisible. Des massages au jus de chicorée donne le courage de faire face aux épreuves importantes de la vie. Les vertus des plantes ont ainsi, au fil des siècles, permis aux humains d'affronter leurs démons et de se connecter aux forces invisibles de la nature. L'utilisation culinaire de la chicorée est très ancienne. Les Grecs et les Romains cuisinent les feuilles en salade ou cuites comme légumes. La chicorée fait partie des plantes cultivées dans les domaines royaux sous Charlemagne et figure dans le capitulaire de Vinice. L'utilisation de la racine est plus tardive et débute au XVIIe siècle aux Pays-Bas. Les racines sont récoltées et torréfiées afin d'en développer les arômes et réduire l'amertume. L'essor de la consommation en Europe comme substitut du café est la conséquence d'un blocus continental ordonné en 1806 par Napoléon pour empêcher les importations anglaises de café, ce qui créa une pénurie de café. Et oui, déjà à l'époque. Cela vous ne rappelle rien ? Résultat, la culture de la chicorée prend son envol, notamment dans le nord de la France et en Belgique. Au XIXe siècle, des processus de transformation industrielle conduisent à sa commercialisation à grande échelle. Dickens, dans ses écrits, parlait de l'importance de la chicorée comme substitut du café. Aujourd'hui, la France est le premier producteur européen de chicorée avec 40% de la production mondiale. Pour témoigner de cette évolution et de cette consommation de chicorée, je vous invite à écouter le témoignage de Jacques et Jeanne, tous deux grands amateurs de chicorée.
Bonjour Jeanne, donc merci d'avoir participé à cette interview pour nous parler de la chicorée. Alors tout d'abord, c'est peut-être indiscret, mais pour comprendre ton histoire avec la chicorée, est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as et depuis quand tu connais la chicorée ?
J'ai 86 ans et demi. La chicorée, je la connais du temps de ma mère. Elle l'employait, elle disait qu'elle faisait un café, mais en fait, elle avait plus de chicorée que de café. Elle mettait un peu de lait dedans et tout, elle se régalait. Et c'est vrai que moi, de temps en temps, il y en a de la soluble que j'emploie. Il y en a en grains que j'emploie aussi, mais ça dépend, c'est selon les humeurs. Mais en fait, c'est réconfortant parce que quand il fait froid, par exemple, un après-midi, vous pouvez prendre ça. Ou le matin, c'est très bon aussi pour les intestins. Donc, c'est des produits que l'on profite pas beaucoup, mais qui pourraient apporter du bienfait.
Ben, merci de ce témoignage. Et est-ce que dans la nature, toi, tu fais le lien avec la fleur sauvage qui pousse? Parce oui. Que la chicorée, là, elle est cultivée, celle oui. qu'on boit. Mais tu arrives à tu la connais à sa version sauvage, toi, dans la nature?
Oui, elle est bleue. J'ai vu des terrains où il y en avait tout un carré. C'est formidable. C'est une plante que je ne penserais pas accueillir, parce que d'abord, elle ne tiendrait pas dans l'eau. Mais quand je la vois, je pense à tout le bienfait. Elle nous ravit la vue. Et puis finalement, elle nous ravit par ailleurs.
Merci beaucoup, Jeanne, pour ce témoignage. Parce que les plantes, elles ont toujours une histoire avec les gens. Et donc, merci d'avoir participé. Au revoir, Jeanne.
Merci, au revoir.
Outre ses usages culinaires, les vertus médicinales de la chicorée sont connues depuis les Égyptiens pour ses propriétés dépuratives, digestives et laxatives. Très riche en minéraux, elle contient du potassium, de la silice, du sodium, du calcium, du magnésium et du fer. Un vrai cocktail minéral, sans compter la présence des vitamines A, B et C. La présence de ces éléments explique l'usage de la chicorée pour purifier le corps. Dans le potager, l'espèce sauvage Cichorium intibus a donné d'autres variétés cultivées pour leur chicon. En 1850, un responsable du jardin botanique à Bruxelles met au point la culture de racines dans sa cave à l'abri de la lumière. Il découvre l'apparition de pousses blanches dépourvues de chlorophylle et d'amertume qu'il appellera Witloff, ce qui signifie feuille blanche. 20 ans plus tard, la Belgique exportera ses pousses sous le nom d'endive de Bruxelles. D'autres variétés se cultivent en salade, de la même famille que la chicorée sauvage, comme la chicorée rouge ou la chicorée pain de sucre. Une autre cousine, Cicorium endiva, est elle cultivée pour ses variétés de salade. On distingue celle d'été, comme la chicorée frisée, et celle d'hiver, comme la scarole. Ce sont toutes deux des salades amères, en sachant que l'on aime blanchir le cœur de la frisée à l'aide d'élastiques ou de cloches. Riches en cellulose, ces salades fournissent éléments minéraux et facilitent le transit et sont peu énergétiques. Allez, il est temps de rejoindre Christelle, dont la chronique parle aujourd'hui d'Hildegard de Bingen, un personnage souvent cité dans nos émissions.
Connaissez-vous Hildegard de Bingen ? Je vais vous parler de cette femme du Moyen-Âge, la première influenceuse de l'histoire auprès des grands de ce monde, pionnière des phytothérapeutes modernes. C'est une femme emblématique de son époque. Elle naît en 1098 dans une région de l'ouest de l'Allemagne. Très jeune, elle entre dans les ordres. À 15 ans, elle reçoit le voile. À 38 ans, elle devient abbesse de son couvent de bénédictines. Elle était à la fois abbesse, mystique, visionnaire, illustratrice, compositrice, poétesse, fondatrice, prédicatrice et possédait également des compétences en phytothérapie et en diététique. Hildegard soigne tous ceux qui viennent la voir. Dans ce monastère, Hildegard recevait des malades qu'elle soignait entre autres avec les plantes médicinales qu'elle cultivait. Elle étudie les plantes et leurs effets, elle observe, pratique et elle écrit. Parmi la centaine de plantes utilisées par Hildegard, une cinquantaine avait sa préférence. Allons faire un tour dans le jardin d'Hildegard et découvrir quelques-unes des simples qu'il contient et leurs vertus. On y trouve de l'ail, Allium sativum, qui stimule le cœur, facilite la circulation, lutte contre l'hypertension, chasse et prévient les infections respiratoires, purifie l'intestin, etc. L'ail devrait avoir une bonne place dans notre alimentation quotidienne. On y trouve aussi du laurier, Norus nobilis, qu'on appelle aussi laurier sauce. Ses feuilles séchées sont consommées en infusion ou en condiment. Riche en tanins et en lipides, le laurier est antiseptique, diurétique, stomachique et expectorant. Utile pour tous les troubles digestifs et intestinaux, les infections urinaires et les problèmes ORL. De la lavande, Lavandula officinalis, dont le parfum donne une atmosphère provençale. Très riche en huile essentielle, les fleurs de lavande calment la nervosité et soulagent les maux de tête. Les tisanes sont apaisantes et digestives. Un sachet de lavande dans l'oreiller facilite le sommeil. Et tellement d'autres plantes encore. Les recettes d'Hildegard et ses constatations sur les propriétés des plantes sont passées dans le savoir populaire par transmission de génération en génération et sont toujours d'actualité. Hildegard de Bingen mourut en 1179. De nombreux ouvrages existent sur cette femme exceptionnelle. Je vous invite à les découvrir pour faire connaissance avec Hildegard de Bingen et ses recettes.
C'est la fin de cette émission. Vous trouverez toutes les informations pratiques dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas, bien entendu, à écouter sans limite tous nos podcasts de l'émission Les Plantes Vagabondes sur radio-g.fr. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. C'était Claudie, Élise et Christelle et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour parler d'une nouvelle plante sauvage. À très bientôt !